Je ne suis cependant jamais parvenue à élucider ce dernier point entièrement. J'ai toujours su, bien entendu, que ma mère avait été artiste dramatique. Avec quel accent de fierté elle avait toute sa vie prononcé ces mots. Et je me revois encore à ses côtés à l'âge de 5-6 ans, dans les solitudes enneigées où nous errions au hasard de ses tournées théâtrales, dans les traîneaux aux clochettes tristes qui nous ramenaient de quelques usines glacées, où elle venait de donner du Tchekhov devant les ouvriers d'un soviet local, ou de quelques casernes où elle avait dit des poèmes devant les soldats et les matelots de la Révolution. Je me retrouve aussi sans peine dans sa petite loge de théâtre à Moscou, assis par terre en train de jouer avec des bouts d'étoffe multicolores que j'essayais d'assortir harmonieusement. Mon premier effort d'expression artistique. Je me souviens même du nom de la pièce qu'elle interprétait alors. Le chien du jardinier. Mes premiers souvenirs d'enfance sont un décor de théâtre, une délicieuse odeur de bois et de peinture. Une scène vide où je m'aventure prudemment dans une fausse forêt et me fiche de terreur en découvrant soudain devant moi une salle immense, béante et noire. Je revois encore des visages grimés, étrangement beiges, aux yeux cerclés de blanc et de noir, qui se penchent sur moi et me sourient. Des hommes et des femmes bizarrement vêtus qui me tiennent sur les genoux pendant que ma mère est en scène. Je me souviens encore d'un matelot soviétique qui me soulève et m'installe sur ses épaules pour me permettre de voir ma mère interprétant le personnage de Rosa dans Le naufrage de l'espoir. Je me souviens même de son nom de théâtre, ce furent les premiers mots russes que j'appris à lire moi-même, et ils étaient écrits sur la porte de sa loge, Nina Borisovskaya. Il semble donc bien que sa situation dans le petit monde de théâtre russe aux environs des années 1919-1920 était assez solidement établie. Ivan Mozhoukine, le grand acteur de cinéma, qui avait connu ma mère à l'époque de ses débuts artistiques, avait cependant toujours été assez évasif à ce sujet. Fixant sur moi ses yeux pâles sous des sourcils de Cagliostro, il me disait à la terrasse de la Grande Bleue où il me faisait venir parfois lorsqu'il tournait un film à Nice pour voir ce que je devenais, « Votre mère aurait dû faire le conservatoire. Malheureusement, les événements ne lui ont pas permis de développer son talent. Et puis, dès votre naissance, jeune homme, en dehors de son fils, rien ne l'intéressait vraiment. » Je savais aussi qu'elle était fille d'un horloger juif de la steppe russe, de Koursk plus précisément, qu'elle avait été très belle, qu'elle avait quitté sa famille à l'âge de 16 ans, qu'elle avait été mariée, divorcée, remariée, divorcée encore, et tout le reste, pour moi, était une joue contre la mienne, une voix mélodieuse qui murmurait, parlait, chantait, riait, un rire insouciant d'une gaieté étonnante que je guette, j'attends, je cherche en vain, depuis, autour de moi. Un parfum de muguet, une chevelure sombre qui coule à flot sur mon visage, et murmurait à l'oreille des histoires étranges d'un pays qui, un jour, allait être le mien. Conservatoire ou pas, elle devait cependant avoir du talent, parce qu'elle mettait à évoquer pour moi la France tout l'art des conteurs orientaux et une force de conviction dont je ne me suis jamais remis. Jusqu'à ce jour, il m'arrive d'attendre la France, ce pays intéressant dont j'ai tellement entendu parler, que je n'ai pas connu et que je ne connaîtrai jamais, car la France que ma mère évoquait dans ses descriptions lyriques et inspirées depuis ma plus tendre enfance avait fini par devenir pour moi un mythe fabuleux, entièrement à l'abri de la réalité, une sorte de chef-d'œuvre poétique qu'aucune expérience humaine ne pouvait atteindre ni révéler. Elle connaissait notre langue remarquablement, avec un fort accent russe, il est vrai, dont je garde la trace dans ma voix jusqu'à ce jour. Elle n'avait jamais voulu m'expliquer où, comment, de qui, à quel moment de sa vie elle l'avait apprise. J'ai été à Nice et à Paris. C'était tout ce qu'elle avait consenti à me confier. Dans sa loge de théâtre glacée, dans l'appartement que nous partagions avec trois autres familles d'acteurs, où une jeune bonne Agnella prenait soin de moi, et plus tard, dans les wagons à bestiaux qui nous emportaient vers l'ouest, avec le typhus pour compagnie, elle s'agenouillait devant moi, frottait mes doigts engourdis et continuait à me parler de la terre lointaine où les plus belles histoires du monde arrivaient vraiment. Tous les hommes étaient libres et égaux. Les artistes étaient reçus dans les meilleures familles. Victor Hugo avait été président de la République. L'odeur du collier de camf que je portais autour du cou, remède souverain, paraît-il, contre les poux typhiques, me piquait aux narines. J'allais être un grand violoniste, un grand acteur, un grand poète. Le Gabriel et D'Annunzio français, Nijinsky, Émile Zola. On nous gardait en quarantaine à Lida, à la frontière polonaise. Je marchais dans la neige, le long de la voie ferrée, une main dans celle de ma mère, tenant dans l'autre un pot de chambre dont je refusais de me séparer depuis Moscou et qui était devenu un ami. Je m'attache très facilement. On me rasait le crâne. Couchée sur une paillasse, le regard perdu dans le lointain, elle continuait à évoquer mon avenir radieux. Je luttais contre le sommeil et ouvrais des yeux tout grands pour essayer d'apercevoir ce qu'elle voyait. Le chevalier Bayard, la dame au cabillaud, on trouvait du beurre et du sucre dans tous les magasins. Napoléon Bonaparte, Sarah Bernhardt. Je m'endormais enfin, la tête sur son épaule, le pot de chambre serré dans mes bras. Plus tard, beaucoup plus tard, après 15 ans de contact avec la réalité française, à Nice, où nous étions venus nous établir, le visage ridé maintenant et le cheveu tout blanc, vieilli, puisqu'il faut bien dire le mot, mais n'ayant rien appris, rien remarqué, elle continua à évoquer avec le même sourire confiant ce pays merveilleux qu'elle avait apporté avec elle dans son baluchon. Quant à moi, élevée dans ce musée imaginaire de toutes les noblesses et de toutes les vertus, mais n'ayant pas le don extraordinaire de ma mère de ne voir partout que les couleurs de son propre cœur, je passais d'abord mon temps à regarder autour de moi avec stupeur, à me frotter les yeux, et ensuite, l'âge d'homme venu, à livrer à la réalité un combat homérique et désespéré pour redresser le monde et le faire coïncider avec ce rêve naïf qui habitait celle que j'aimais si tendrement. Oui, ma mère avait du talent, et je ne m'en suis jamais remis.